Je suis donc, j'habite à Toulouse et je suis médecin homéopathe de formation de base. Et dès que j'ai été installée, je me suis de suite rendue à l'évidence avec les premiers patients qui venaient me voir, que j'avais des questions et que je n'avais pas trouvé encore mes réponses dans mes études, que ce soit mes études à la fac ou en homéopathie. Et notamment, j'avais des questions concernant la maladie, parce que je ne comprenais pas pourquoi un jour la maladie comme ça arrive. Et je m'interrogeais beaucoup sur ce pourquoi. Voilà. Et donc, je cherchais à comprendre, parce que je me sentais très, très limitée dans tout ce que je pouvais apporter à ces patients pour les aider à aller mieux. L'homéopathie m'a montré quand même des limites rapidement. J'étais quand même dépassée dans ce que je pouvais apporter et ça m'embêtait beaucoup. Donc j'ai cherché à trouver mes réponses et du coup tout ça m'a amenée à m'intéresser à de nouvelles choses, à découvrir des nouvelles formations. J'ai découvert la médecine chinoise. Vite après, j'ai découvert la médecine ayurvédique. J'ai vu les liens qu'il y avait entre ces deux piliers ancestraux de la médecine, avec cette philosophie de la santé, qui n'a rien à voir avec, bien sûr, soigner une maladie, qui considère l'être humain dans une globalité davantage, qui parle d'énergie vitale, voilà, des notions très nouvelles pour moi, qui m'ont vraiment beaucoup séduite. Et voilà, j'ai commencé aussi à faire des formations en médecine énergétique. Et là, ça a été une véritable révélation. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de réponses à des tas de questions que j'avais à moi, non seulement par rapport à la maladie, mais aussi sur la vie en général, sur la mort, sur essayer de donner du sens à sa vie, essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre, pourquoi on est là et à quoi ça sert tout ça? Des questions que j'avais à moi depuis longtemps et donc ça a été vraiment une grande révélation, ça a été un grand saut pour moi, passer d'un univers à un autre. Et j'ai, au fur et à mesure que j'ai découvert tout ça, mis en application dans mon cabinet avec les patients qui venaient me voir. Parce que je suis quand même très scientifique de formation et j'adore expérimenter. Donc j'ai voulu de suite expérimenter et voir les résultats que ça donnait. Voilà, donc les choses ont commencé comme ça. Dans cette même période, j'ai vécu un divorce, une séparation difficile, des choses douloureuses dans ma vie. J'avais déjà vécu des épreuves avant également et donc je me suis mise en chemin. J'ai eu envie de comprendre. Pourquoi je vivais tout ça. Et j'ai commencé un travail sur moi. Et donc, ce travail sur moi m'a permis aussi de comprendre des choses dans mon fonctionnement, de donner du sens à des événements de ma vie, de comprendre pourquoi je les vivais, de prendre conscience que la vie que j'avais, ben, c'est moi qui en étais 100% responsable. Et tout ça a commencé à changer des choses dans ma façon de voir la vie, dans ma vie quotidienne et de fonctionner. Et donc, j'ai vu aussi que quand les patients venaient me présenter leurs problématiques, ça me permettait de mieux les comprendre. Et ça me permettait de leur expliquer aussi à eux, du coup, comment ils fonctionnaient. Donc, plus je découvrais des choses de moi, et plus ça me permettait d'aller accompagner l'autre dans ses propres fonctionnements pour l'amener à des transformations et à des prises de conscience. Donc c'est là que j'ai compris que pour pouvoir accompagner l'autre, il fallait d'abord cheminer soi et que les propres limites d'un thérapeute dans l'accompagnement de ses patients, c'était ses propres limites à lui. Voilà, donc tout ça a fait une belle mayonnaise. Et entre le travail que je faisais sur moi, ce que je comprenais de la vie, de l'être humain, de ses fonctionnements, et ce que je comprenais dans les différentes formations que je faisais, m'a permis d'utiliser tout ça dans mon cabinet avec ma patientèle et d'observer des résultats. Ces résultats qui ont rapidement été intéressants. Je ne savais absolument pas ce que ça allait donner puisque j'expérimentais. Et je me suis rendue à l'évidence que c'était assez étonnant de voir que les gens étaient soulagés dans leurs symptômes assez rapidement, que les maladies toutes simples, bénignes, par exemple chez les tout-petits, chez les enfants, comme les angines, les otites, les laryngites striduleuses, etc., toutes ces pathologies, les bronchiolites, etc., étaient très facilement réparées, enfin guéries, avec une séance en santé humaniste, dès l'instant où on permettait à l'enfant, où moi, en tant que thérapeute, je comprenais le langage du corps de l'enfant. C'est-à-dire que dès l'instant où je mettais en mots avec cet enfant ce qu'il voulait dire à ses parents par sa maladie, eh bien la maladie forcément n'avait plus des raisons d'être, puisque le sens de la maladie avait été compris. Et donc mettre en mots à l'enfant ce que son corps signifiait permettait à l'enfant d'être guéri. Du coup, les traitements homéopathiques que je donnais étaient beaucoup plus efficaces. Et en général, en 24 heures, les problèmes étaient réglés et l'enfant était guéri. Même chose dans les pathologies aiguës des adultes, qui du coup se solutionnent beaucoup plus vite dès l'instant où on leur donne le sens. Mais dans les pathologies chroniques, ça a montré aussi quelque chose de très intéressant, puisque les symptômes régressaient, la qualité de vie au quotidien des personnes était nettement améliorée, l'état de santé général de la personne s'améliorait très très rapidement dès le premier mois de traitement. Et je voyais au fur et à mesure des mois, en général je voyais ces patients une fois par mois, et je voyais au fur et à mesure des mois l'évolution très positive de leur état, que le bilan que je faisais en santé humaniste me permettait d'observer, et que eux effectivement me confortaient par rapport à leur clinique. Donc j'ai pu comme ça observer les résultats tant sur l'aigu que sur le chronique. Voilà, alors ça a été une expérience qui a duré une bonne quinzaine d'années, avec une activité à temps plein, un cabinet bien rempli. Et je me suis intéressée à des pathologies, on va dire, de société d'aujourd'hui, avec par exemple énormément de cas de pathologies thyroïdiennes, surtout chez les femmes. Toutes les pathologies féminines, beaucoup de problèmes pédiatriques, mais aussi toutes les maladies liées au stress de notre civilisation, les dépressions, les burn-out, tous les déséquilibres du système neurovégétatif, les angoisses, la spasmophilie, les TOC, mais aussi les pathologies immunitaires, les maladies auto-immunes, les allergies, etc., etc. Donc des choses assez variées, les fibromyalgies, enfin voilà, toutes ces maladies intéressantes pour lesquelles malheureusement souvent la médecine allopathique est encore assez limitée et n'a pas grand-chose à proposer. Voilà, alors ceci étant, je vais donc commencer à vous parler enfin de la santé humaniste. La santé humaniste, vous l'avez compris, c'est donc le fruit de cet ensemble de cheminements que j'ai fait, de découvertes dans mes formations. Et donc, c'est une méthode, enfin, j'aime pas le mot méthode, parce que pour moi, c'est bien plus qu'une méthode, je dirais que c'est une philosophie de vie et de santé, qui va permettre d'appréhender l'être humain dans toute sa dimension et sa globalité, et de comprendre les liens qu'il y a entre son corps, tout ce que le corps va pouvoir manifester dans ses symptômes et ses maladies, et ce qui se passe dans un niveau plus subtil de lui, qu'on peut appeler l'inconscient ou le subconscient, c'est-à-dire son état émotionnel, ses modes de fonctionnement, ses réactions d'adaptation à sa vie, voilà, et à ses stress. Et ces liens vont se faire par le biais de la structure énergétique qui est le témoignage dans ces dysfonctionnements de ce qui se passe sur un plan émotionnel. C'est toujours la structure énergétique qui fait l'équilibre du fonctionnement de l'organe et de la matière. Et dès l'instant où il y a une dysfonction dans l'énergie, eh bien cela va engendrer, merci Céline, cela va engendrer un dysfonctionnement de l'organe qui va d'abord être d'ordre fonctionnel pour ensuite, à la longue, si ce n'est pas régulé, passer au stade organique. Alors, petite précision, une maladie fonctionnelle, c'est une pathologie pour laquelle la plupart du temps, les analyses biologiques et les examens complémentaires ne révèlent rien, les bilans sont tout à fait normaux. Alors souvent, la médecine classique dit, ben, vous n'avez rien, ce qui est absolument faux, la personne a une vraie pathologie, une vraie dysfonction, mais que les analyses et les examens complémentaires ne permettent pas de mettre en évidence. À ce moment-là, le bilan en santé humaniste va être passionnant et intéressant puisqu'on va pouvoir, grâce à ce bilan, mettre en évidence effectivement la dysfonction de l'organe et donc on va pouvoir apporter une solution pour le réguler et le remettre en santé. On parle de pathologie organique lorsque, aux analyses et aux examens, on voit effectivement des anomalies qui montrent la dysfonction organique de l'organe. Donc, c'est le stade un peu plus avancé, mais là aussi, la santé humaniste va pouvoir apporter des solutions intéressantes pour amener l'organe à retrouver son état de santé de départ. Voilà, alors on va faire donc ce bilan de santé en santé humaniste. Pour faire ce bilan de santé en santé humaniste, nous avons un outil super génial qui s'appelle le pouls de Nogier. Je ne sais pas du tout si vous avez entendu parler de ce pouls Nogier parce que la personne qui a le premier découvert ce pouls, c'est le docteur Nogier, qui est un médecin lyonnais. Qui est décédé maintenant et qui a passé énormément d'années de sa vie consacrée à l'auriculothérapie, à l'étude de l'oreille et de tout ce qu'on pouvait soigner à partir de l'oreille. Et donc, c'est lui le premier qui a découvert que on avait des variations d'amplitude de nos pulsations cardiaques, donc au niveau du pouls radial, comme quand on veut prendre le pouls pour compter les pulsations, lorsqu'il approchait des filtres colorés de l'oreille de ses patients. Alors, ça a été un point de départ très intéressant qui a ouvert. Vous avez des choses, si ça vous intéresse d'aller creuser un peu, vous avez des choses intéressantes sur Internet, sur le docteur Nogier et le pouls de Nogier. Et donc, à partir de là, d'autres choses ont émergé et on s'est rendu compte qu'avec ce pouls tout simple, puisque c'est beaucoup plus simple que le pouls chinois, il suffit de poser les doigts sur le pouls et après de savoir écouter et de savoir observer ces variations d'amplitude en fonction de quelle information on va envoyer à la personne. Son corps va répondre avec une variation d'amplitude du pouls. Donc c'est extrêmement simple, à une seule condition essentielle, c'est que la personne qui prend ce pouls soit correctement positionné pour pouvoir l'écouter correctement et avoir une réponse fiable et juste. Voilà, donc ce pouls de Nogier est la base de tout le travail que nous allons faire en santé humaniste, puisqu'à partir de là, on va pouvoir faire un bilan de santé complet de la personne. Avec ce pouls, nous allons faire un bilan de la structure énergétique de la personne, ce qui va nous donner une vue d'ensemble de son état de santé. À partir de là, on va pouvoir également tester l'état des organes. Donc, on sélectionnera les organes que l'on veut tester en fonction de la maladie ou des maladies, des pathologies de la personne ou de ses symptômes, donc de sa clinique. Et on pourra ainsi regarder les organes malades, mais aussi les organes en lien avec l'organe malade, puisqu'on verra qu'il y a des liens intéressants entre les organes. Ces liens ne sont pas forcément appris en fac de médecine d'ailleurs. Par exemple, quand une thyroïde se met à dysfonctionner, il faut de suite aller voir avant les glandes surrénales et le gros intestin. Donc, on apprendra tous ces liens pour aller regarder l'état énergétique de ces différents organes, de façon à avoir une vue d'ensemble de leur fonctionnement. Mais également, on pourra tester les grandes fonctions vitales de l'organisme, de façon à évaluer l'état physique de la personne. Donc on a déjà son état physique avec les fonctions vitales et les organes. On a son état énergétique puisqu'on a évalué la structure énergétique. Et tout ça va nous donner accès directement à son état émotionnel puisque ce pouls du docteur Nogier nous donne accès directement à la mémoire cellulaire émotionnelle de la personne. Je suppose que vous devez savoir que la mémoire de toute notre vie, de tout ce que nous avons vécu sur un plan émotionnel, est inscrite dans notre corps au niveau de nos cellules, de nos organes. C'est ce que nous appelons notre inconscient. Et donc, grâce à ce pouls, nous avons un accès direct à cette mémoire émotionnelle portée par nos cellules. Ce qui fait que c'est intéressant parce que nous allons pouvoir immédiatement mettre du sens et avoir de la compréhension dans ce que le corps manifeste dans sa partie physique, dans ses organes qui dysfonctionnent, et donner du sens par rapport à la mémoire émotionnelle que porte cet organe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en faisant ce bilan, avoir une compréhension rapide de pourquoi la personne est malade et faire le lien entre ce que son corps manifeste et son histoire de vie, en fait. Alors, est-ce que ça a un lien avec la biologie totale? Oui et non. Par contre, on n'est absolument pas dans le décodage biologique. C'est complètement différent du décodage biologique, puisqu'on ne va pas mettre dans des cases telle et telle maladie. On ne va pas dire que telle maladie, ça veut dire ça, parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours vrai. Parce que chaque cas est un cas unique et différent, et que on peut avoir une hypothyroïdie pour des raisons complètement différentes, parce que chaque être humain a une histoire de vie différente. On peut avoir un cancer du sein droit pour des raisons complètement différentes, parce que chaque personne a une histoire de vie différente. Donc ce n'est pas du tout la même chose que le décodage biologique. C'est vraiment aller dans la vérité même de la personne et de son histoire, dans son intime, dans son intimité de vie, grâce à cette mémoire cellulaire. Alors c'est très intéressant parce que ces liens vont nous permettre de donner du sens à tout ça et de pouvoir le partager avec le patient, de pouvoir lui expliquer ce que l'on trouve, de façon à lui faire faire des prises de conscience, de façon à le faire cheminer pour qu'il commence lui aussi à donner du sens à ce qui lui arrive. Une fois que ce bilan est fait, que nous avons cette vue d'ensemble, cette compréhension globale de ce qui se joue pour la personne, nous allons pouvoir lui proposer, bien entendu, des solutions pour pouvoir remettre l'équilibre à l'intérieur et réguler tous les dysfonctionnements. Alors, qu'est-ce que nous allons pouvoir lui proposer comme outil et comme moyen en santé humaniste? Nous allons pouvoir tout d'abord lui proposer de la digitoponcture. Alors, qu'est-ce que la digitoponcture? La digitoponcture est un travail fait sur les points d'acupuncture que l'on va utiliser non pas en plantant une aiguille d'acupuncture, encore qu'on peut le faire pour les personnes qui savent ou qui ont le droit de mettre des aiguilles. Alors, Céline demande combien de temps pour faire le bilan. Eh bien, quand on commence à avoir un petit peu de pratique, je dirais, je sais pas, c'est très rapide, 5-10 minutes, et on a un bilan global de tout l'état de la personne. Donc, c'est un bilan extrêmement rapide. Voilà, donc la digitoponcture, ça va nous permettre donc de travailler à partir de points d'acupuncture pour relancer en massant ces points avec le doigt, pour relancer l'énergie vitale qui est bloquée dans les parties que l'on aura identifiées avec notre bilan. Donc nous allons apprendre 12 protocoles de digitoponcture, chacun ayant une action spécifique sur une partie du corps perturbée et pouvoir la remettre en action. Ça, c'est la première des solutions. Donc, on pourra soit travailler un massage de ces points avec le doigt, soit planter une aiguille d'acupuncture sur ce point, si on est habilité à le faire. Et si ça vous intéresse, je peux vous apprendre aussi à mettre des aiguilles, il n'y a pas de problème. La deuxième solution que l'on va pouvoir proposer pour rééquilibrer les désordres, ça va être d'accompagner ce patient dans un travail plus approfondi, émotionnel et de prise de conscience. C'est-à-dire, on va pouvoir l'accompagner, vraiment être accompagné, être un accompagnant avec notre présence bienveillante que l'on travaille pour approfondir dans ce positionnement toutes nos qualités et nos valeurs humaines que l'on va mettre au service de ce soin et au service du patient, nous allons pouvoir accompagner ce patient dans aller l'inviter à recontacter cette mémoire cellulaire émotionnelle. Ça veut dire aller l'inviter à aller dans la partie de son corps portant cette mémoire et aller l'inviter à se repositionner dans le temps où cette mémoire-là a été vécue. Ça veut dire soit effectivement une mémoire en lien avec la petite enfance, et là on va aller travailler sur son enfant intérieur. Donc ça peut être l'enfance, ça peut être la naissance, ça peut être la vie intra-utérine, ça peut être la conception. Soit une mémoire de l'ordre plus du transgénérationnel. Vous devez savoir qu'on a bien sûr, on porte des choses qui ne nous appartiennent pas et qui sont en lien avec complètement l'histoire de notre famille, de nos lignées, côté père et côté mère, de tous nos ancêtres, et que nous sommes porteurs de toutes ces histoires vécues et non réparées et non résolues, et qui viennent bien sûr dans notre inconscient, nous jouer des tours et nous perturber très souvent dans notre vie de tous les jours, soit aussi des mémoires de vie passée, ce qu'on appelle des mémoires karmiques, puisque l'enfant qui arrive n'arrive pas tout nu et qu'il arrive chargé déjà de ce qu'il a été, de toutes ses mémoires à la fois de ses vies passées, de son transgénérationnel, puis ensuite de ce qu'il vit pendant ses 9 mois in utero, de tout ce qu'il peut ressentir de la mère, etc., etc. Donc, vous voyez qu'on a tout un tas de mémoires à l'intérieur de soi. Et donc, grâce à ce bilan, on va savoir identifier exactement cette mémoire qui vient faire dysfonctionner l'organe. Elle date de quand? Elle est en lien avec qui et en lien avec quoi dans l'histoire de la personne. Donc, nous allons apprendre à accompagner et à amener le patient dans cette partie-là. Alors, Céline demande comment le patient concrètement peut mettre en conscience sa problématique par le biais de l'hypnose. Alors, pas du tout. On ne travaille pas avec l'hypnose. Je n'ai rien contre l'hypnose. Mais là, c'est vraiment un travail que le patient fait en plein état de conscience. C'est-à-dire que nous allons l'inviter à fermer les yeux et le corps va être l'instrument que nous allons utiliser. C'est-à-dire que les sensations corporelles que le corps va donner, c'est la porte d'entrée, c'est ce qui va nous permettre de faire ce travail en profondeur. Donc, on va inviter le patient à se mettre à l'écoute de son corps et des sensations physiques qu'il va avoir lorsqu'on va le mettre en lien avec, on va dire, le protagoniste que l'on a trouvé et qui vient le perturber, son père, sa mère, la grand-mère, le grand-père, etc., etc. Et donc, dès l'instant où le patient va se mettre en lien avec ce protagoniste et à l'écoute de la zone du corps que l'on aura trouvée chargée de la mémoire, eh bien, il va y avoir des symptômes, le corps va commencer à donner des informations, parce que les informations vont à ce moment-là automatiquement remonter à la conscience, et il va y avoir des manifestations physiques, une oppression, une boule à la gorge, une douleur dans le ventre, etc. Et donc, c'est à partir de là qu'on va utiliser ces sensations physiques pour aller inviter le patient à aller derrière la sensation physique, comment il se sent lui à l'intérieur. Avec cette boule à la gorge, comment il se sent? Eh bien, il peut se sentir angoissé. Ok, alors on va aller voir cette angoisse. Et comme ça, de fil en aiguille, on apprend à accompagner pas à pas le patient pour l'amener à aller contacter cette mémoire cellulaire. Et c'est fabuleux parce que cette mémoire cellulaire, elle ne demande qu'à remonter, elle ne demande qu'à être mise en lumière de conscience pour être transformée et réparée. Et on va pouvoir, dans cette séance, laisser comme ça remonter, un peu comme une bulle, hein, qui remonterait de la vase, là. On va pouvoir laisser remonter, cette douleur, cette angoisse, cette tristesse, cette peur, cette colère, etc., etc., pour pouvoir la traverser, pour pouvoir la vivre, pour pouvoir l'extérioriser et la libérer complètement. Et donc, on va pouvoir carrément la transformer et la réparer. C'est une vraie réparation profonde qui va être faite. Et donc, on va pouvoir récupérer à la place de cette émotion négative une force. une force positive, on va pouvoir transformer une croyance qui était fausse, on va pouvoir l'enlever, on va pouvoir modifier un mode de fonctionnement, on va pouvoir faire tout un travail comme ça profond. Par exemple, un bébé in utero qui peut se mettre à mettre en place un mode de fonctionnement pour s'adapter à une situation qu'il vit in utero. Par exemple, il sent que ses parents ne l'ont pas désiré parce qu'il n'était pas prévu au programme quand il arrive. Et il va pouvoir du coup se mettre dans, bon, ben, je ne suis pas désiré, donc je vais me faire tout petit, je ne vais surtout pas déranger parce que comme je ne suis pas désiré, si je me manifeste trop, je risque d'être rejeté et de ne pas être aimé. Donc pour espérer ne pas être rejeté et espérer avoir un peu d'amour, il va se faire tout petit dans son coin, ne pas trop bouger, ne pas trop exister. Et donc il met en place ce mode de fonctionnement. Et bien ce mode de fonctionnement qui est mis en place in utero avec cette croyance qu'il peut être pas aimé et rejeté parce qu'il n'est pas désiré, c'est quelque chose qui va le poursuivre toute sa vie ensuite et il va se mettre à fonctionner durant toute sa vie avec cette croyance et ce mode de fonctionnement. Ça veut dire que là, on va pouvoir aller récupérer ça et prendre conscience de ça et transformer tout ça. Donc ça veut dire pouvoir avoir une action sur carrément un impact important dans la vie de la personne, parfois des vraies transformations de vie qui vont améliorer considérablement la vie quotidienne de l'être et pouvoir amener une vraie évolution positive de la personne dans sa vie de tous les jours. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez un peu plus comment on accompagne, c'est un accompagnement magnifique qui est tout à fait dans l'empathie. Donc on va beaucoup travailler dans cette formation. La mise en évidence de toutes les qualités humaines que nous portons tous en nous, et on va les utiliser et les révéler pour pouvoir les mettre au service de ce soin et de cet accompagnement. Donc, on va travailler avec l'empathie, on va travailler avec l'ouverture du cœur, parce que pour moi, c'est la clé de toute relation thérapeutique, et pas que, puisque c'est aussi la clé de toute relation humaine, bien évidemment, et donc encore plus dans cette relation thérapeutique. On va travailler sur l'écoute, sur la bienveillance, sur le respect, respecter les limites aussi du patient, ne pas aller au-delà de là où il peut aller, être vraiment dans ce respect de ces limites-là, c'est extrêmement important. Voilà, et lui parler avec beaucoup de bienveillance et de respect, le reconnaître dans ses difficultés, le reconnaître aussi dans tout son potentiel de transformation, dans toute sa force qu'il a à l'intérieur de lui de guérir. Parce que dans ce travail, on va remettre le patient dans sa pleine responsabilité. Non, il ne faut pas avoir de formation médicale. Alors, je réponds à cette question du coup, parenthèse, je forme autant les personnes qui sont déjà dans le soin que celles qui n'y sont pas et qui veulent se reconvertir et devenir thérapeutes. Voilà. Donc, on est tous des thérapeutes en puissance, de toute façon, et on est tous en capacité de le devenir et de réaliser ça. Et donc, on va vraiment travailler avec ces qualités et on va remettre le patient dans sa part de responsabilité. Contrairement à la relation thérapeutique un peu plus classique, allopathique, dans laquelle le thérapeute est celui qui sait, qui a la connaissance et donc un peu le pouvoir, ou des fois beaucoup, et le patient qui est là et qui s'en remet au thérapeute, un peu dans la soumission aussi, dans cette relation patient-thérapeute, eh bien là, le patient ne prend pas sa responsabilité, il va avaler son cachet et puis il va attendre que le cachet fasse effet, et on ne va pas lui proposer de faire un travail de conscience et de responsabilisation. En santé humaniste, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on va inviter le patient à prendre complètement sa part de responsabilité. Je parlerai de la périnade tout à l'heure, Sandrine, parce qu'on abordera ça. Il y aura un paragraphe très particulier sur la périnade, si les personnes qui sont en ligne sont intéressées par ce sujet, parce qu'effectivement, il y a des applications très très importantes dans le domaine de la périnatalité. Et donc, on va remettre le patient dans sa part de responsabilité et le résultat de la séance sera le fruit et l'alchimie de tout ce qui se fait entre le thérapeute, qui est, on va dire, dans cette relation empathique avec le patient et qui va accompagner le patient dans tout son potentiel de réparation et de guérison qu'il porte en lui. Donc c'est notre place d'accompagnant qui est là, mais on n'est pas le sauveur et on n'est pas celui qui va guérir l'autre. On est celui qui va lui permettre d'aller chercher en lui tout son plein potentiel de réparation. Et ça, c'est quelque chose de très important et je trouve que c'est ça la vraie place du thérapeute dans cette relation thérapeutique complètement égalitaire en fait. Voilà le principe. Et donc ensuite, le troisième outil intéressant que l'on va pouvoir proposer pour rééquilibrer les dysfonctionnements que l'on a trouvés au bilan, ça va être des traitements avec la micronutrition. Alors, j'ai cru comprendre que vous n'avez pas trop de notions, que c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu au Québec, la micronutrition. Donc, qu'est-ce que c'est la micronutrition? Eh bien, la micronutrition, ce sont des traitements avec des compléments alimentaires qui sont des assemblages en fait de nutriments, c'est-à-dire de vitamines, d'oligo-éléments et d'acides aminés en quantité micro. Donc on n'est pas dans l'homéopathie puisque l'homéopathie c'est de l'infinitésimal, on est plutôt dans l'infiniment petit, quantité micro. Assemblé dans un produit, donc dans un remède qui va être pris par la personne et qui va avoir pour effet de renourrir l'organe qui dysfonctionne, de lui amener ce qu'il a besoin pour retrouver son état de santé et qui va avoir également pour fonction, pour rôle, de renourrir la fonction vitale qui dysfonctionne. Petite précision. On appelle une fonction vitale un ensemble d'organes qui travaillent tous pour une même cause. Exemple, la fonction digestion, composée de tous les organes du tube digestif et du système nerveux neurovégétatif qui le gère. Exemple, la fonction immunitaire, exemple, la fonction d'élimination, etc., etc. Donc cette micronutrition, ce sont des traitements extrêmement intéressants et d'une grande efficacité, sans aucun danger, sans aucune contre-indication, sans aucun risque de surdosage ou aucun effet secondaire, et qui vont avoir un effet rapide pour traiter la partie physique de la personne. Donc voyez, on a avec ce bilan un aspect global de la personne avec l'état physique, avec l'état énergétique et l'état émotionnel. Et nous avons trois possibilités de travailler sur chaque partie, avec la digitoponcture pour réguler la structure énergétique, la micronutrition pour rétablir les dysfonctions du physique et renourrir le physique, et cet accompagnement émotionnel avec cette mémoire cellulaire émotionnelle pour aller travailler sur les causes profondes. Ça veut dire qu'on a accès à toute la dimension et aux différentes parties qui constituent l'être humain. Ça veut dire que si je sais travailler sur ces différentes parties, évidemment que je vais avoir un résultat beaucoup plus rapide et efficace que si je travaille que sur une seule. Si je travaille que sur le physique, comme tout est en lien, j'aurai forcément des répercussions sur les deux autres. Mais si en plus je rétablis la structure énergétique et si en plus je permets au patient de donner du sens à ce que son corps veut lui signifier, ben c'est évident que là, on a un impact extrêmement important puisqu'on travaille sur les trois et que tout ça va être en synergie et va se potentialiser. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que la santé humaniste, comment se passe une consultation. Et un petit peu tout ce qu'on peut faire donc dans les pathologies à la fois aiguës et chroniques. Ça permet également très souvent de... Oui, c'est ça, Céline. Céline dit, vous travaillez en 3D. Ben oui, effectivement, on travaille sur les trois dimensions de l'être, effectivement, les trois parties en fait, en lien complètement qui nous constituent et voilà, effectivement. Donc, alors, je ne sais plus qu'est-ce que j'étais en train de vous dire. Donc, ce bilan donc, va nous permettre de mettre en évidence tout ça. Et donc, on va pouvoir réguler et rétablir ces déséquilibres et ces dysfonctions avec ces différents outils. On va également être amené à identifier, grâce à ce bilan, des choses, des dysfonctions qui apparaissent. avant même que l'organe se mette à manifester réellement des symptômes de dysfonctionnement. Ça veut dire qu'on va non seulement faire un travail curatif lorsque déjà la pathologie est installée, mais aussi faire un traitement préventif avant même que les premiers symptômes puissent s'installer. Voilà, donc c'est intéressant à la fois en curatif et en préventif. Alors, peut-être que je peux maintenant aborder la périnatalité, puisque, mais je ne sais pas si ça intéresse les quatre spectateurs qui sont en ligne. En tout cas, je vais en parler, et puis si ça ne vous intéresse pas, vous me le dites, et puis on passera à autre chose. La périnatalité, c'est la raison, c'est ce qui m'a fait, en fait, créer cet institut en 2000. C'est pour travailler dans ce domaine de la naissance que j'ai créé cet institut AMA, c'est pour ça que je l'ai appelé AMA, qui signifie altérité maternelle appliquée, parce que dans mes épreuves que la vie m'a proposé de traverser, j'ai été confrontée à des grosses difficultés avec mes maternités et surtout avec mes accouchements, puisque j'ai failli perdre la vie et celle de mon fils pour mon premier accouchement. Donc ça a été une expérience assez importante dans mon existence. Et puis la deuxième n'a pas été mal non plus. Et puis la troisième a été celle qui a tout réparé grâce au fait que j'avais pu entre les deux faire ce travail sur moi et donner du sens à ce qui m'était arrivé avant et à me réparer. Donc lorsque j'ai pu... Comment dire, avec ce troisième accouchement qui a été complètement réparateur, me retrouver pleinement avec une estime de moi plus importante. Et quand j'ai repris mon travail et que je voyais toutes ces jeunes mamans venir dans mon cabinet catastrophées parce que leur accouchement s'était mal passé, parce qu'elles l'avaient mal vécu et tout ça, je me suis dit un jour, mais il faut quand même essayer de faire quelque chose parce que moi, ma vie... Autant vaut-il que mes histoires et que mes vécus servent à quelque chose. Donc si parfois, si des fois ça pouvait servir à d'autres, ça pourrait être pas mal. Et comme je voyais déjà depuis pas mal d'années les résultats que j'avais avec la santé humaniste dans mon travail de médecin, dans toutes les pathologies que j'accompagnais, je me suis dit qu'effectivement, moi ayant été... Comment dire, moi étant la première à voir les résultats que ça avait donné sur moi pour mon accouchement, je me suis dit que peut-être il y avait quelque chose d'intéressant à aller expérimenter là. Et donc, un jour que je faisais une méditation, j'ai été, comment dire, j'ai été, je sais pas comment vous l'exprimer, il y a quelque chose qui est arrivé là, à moi, qui est tombé, on va dire comme ça. Et j'ai eu des tas d'informations qui sont arrivées, donc j'ai vite pris un papier, un crayon, et j'ai écrit, écrit, écrit. Et en fait, est née comme ça une méthode d'accompagnement de la grossesse et de préparation à la naissance, que j'ai donc eu envie d'expérimenter pour voir ce que ça donnait, pour voir comment ça allait fonctionner. Donc ça a été une grande étape dans ma vie. Ne pouvant pas le faire au sein de mon cabinet parce que c'était interdit, j'ai créé une association et j'ai trouvé un autre local et je me suis mise à commencer donc à accompagner des couples qui attendaient un bébé avec cette méthode-là. Donc j'ai pendant des années, je me suis vraiment régalée dans ce travail merveilleux d'accompagnement de ces parents et de ces bébés à venir. Et j'ai vu des choses qui m'ont complètement dépassée, qui m'ont même complètement perturbée, remuée profondément. J'ai été profondément touchée de ce qui se passait dans ces séances. Et je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait des choses à rajouter à ce qui m'était venu là. Et je me suis par exemple rendu compte qu'on pouvait travailler aussi avec les bébés in utero et que en prenant le pouls de la maman, on pouvait accéder à faire ce même bilan avec le bébé in utero, ce qui était fort intéressant pour dès ce moment-là de la vie intra-utérine, permettre à ces bébés des fois de solutionner des problématiques qu'ils vivaient déjà. Donc des expériences magnifiques pendant plusieurs années avec des accouchements dans des maternités classiques, et des couples qui étaient dans une autonomie totale parce que pleinement responsables de ce qu'ils avaient envie de vivre pour eux et leurs enfants, chacun étant positionné à leur juste place d'homme et de femme, de père et de mère, et donc des accouchements qui se passent bien bien mieux, avec quasiment pas besoin de médicalisation, avec donc un taux beaucoup plus bas de médicalisation, c'est-à-dire de péridurale, de césarienne, de forceps, de spatule, d'épisiotomie, vraiment des accouchements beaucoup plus physiologiques, beaucoup plus respectueux des besoins de ces trois personnes et du coup un accueil du bébé dans d'autres conditions, avec plus de douceur, plus de respect et plus de conscience aussi de la part des parents. Donc des bébés complètement différents aussi, des bébés sereins, des bébés paisibles, avec des liens affectifs qui sont créés pendant cette grossesse, puisqu'on va pouvoir, dans ces séances d'accompagnement, que l'on démarre idéalement au début du quatrième mois de la grossesse, on va pouvoir profiter du quatrième, cinquième et sixième mois de la grossesse pour faire un travail avec le couple et le bébé de création des liens affectifs. Ces liens affectifs étant la base de la structure future de ce bébé, c'est-à-dire de ce futur être humain. Plus ces liens affectifs sont créés de façon solide avec le bébé, et plus cet être humain et cet adulte sera plus tard un être adulte qui aura une base solide, une base structurée sur le plan affectif, et qui donc sera dans une paix, on va dire, intérieure beaucoup plus posée, et avec déjà une capacité à faire face à la vie après de façon plus importante. Donc on va énormément travailler sur la création de ces liens affectifs. On va travailler aussi à informer les parents de toutes les compétences de leur bébé, les compétences du bébé in utero, c'est-à-dire ses compétences affectives, ses compétences sensorielles et ses compétences émotionnelles. Tout ça en s'appuyant sur les découvertes qui ont été faites sur un plan scientifique il y a quelques années et qui prouvent tout ça, bien entendu. Donc, ces parents ayant une vision de leur enfant différente, ayant une conscience que ce petit bébé est déjà un être humain entier, à part entière, qui fonctionne exactement comme eux, eh bien, ils vont avoir une autre considération de leur bébé, ils vont avoir une envie différente de s'investir dans leur rôle et dans leur grossesse. On va vraiment donner au papa sa place dans ces séances et l'investir pleinement. Et du coup, ils vont vivre une grossesse complètement différente. Céline, dommage que ma mère ne vous ait pas connue à l'époque. Eh bien oui, dommage aussi que moi, je n'ai pas connu ça pour mes deux premiers, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, c'est aussi notre richesse. Ce qu'on n'a pas pu faire avant parce qu'on ne le connaissait pas, ce que nos parents n'ont pas pu nous transmettre ou nous donner parce qu'ils ne le savaient pas, c'est aussi tout ça qui fait notre richesse une fois que c'est travaillé. L'important, c'est de pouvoir maintenant accompagner d'autres dans cette découverte. Voilà, donc du coup, cette grossesse va être vécue différemment. Ah ben, si vous avez une formation d'infirmière, c'est génial. Ça veut dire que vous avez déjà fait quelque chose avec votre histoire. Donc, c'est super. Et donc, lorsque ces parents auront donc construit ces liens affectifs avec leur bébé dans cette conscience-là, on va pouvoir, à partir du début du septième mois, du dernier trimestre, commencer vraiment l'accompagnement de l'accouchement et de la naissance. Donc, on va les accompagner dans quelque chose de profond aussi, c'est-à-dire qu'avec la santé humaniste, on va pouvoir non seulement leur expliquer comment se déroule l'accouchement, les apprendre à respirer, les postures, les positions, le bassin, etc., etc., tout ce qui est du classique, mais ça, c'est pas ça la santé humaniste. On va en plus, grâce à cette prise de pouls, pouvoir déceler tout ce qui peut, dans l'inconscient, faire obstacle au bon déroulement de l'accouchement le jour J, c'est-à-dire tout ce qui peut, dans l'histoire de la personne, avoir un impact dans comment elle va accoucher. L'accouchement et la naissance, pour moi, c'est un moment initiatique dans la vie de l'être humain, comme la mort. C'est nos deux grandes initiations de vie, la naissance et la mort, et c'est le même passage dans un sens et dans l'autre. Et donc, en tant qu'initiation, eh bien, ces passages-là vont nous demander de dépasser en nous des choses. C'est pour ça que des fois, dans l'accouchement, il y a des étapes, il y a des paliers, puisque chaque fois que nous allons devoir dépasser une peur, aller se transcender, aller plus loin, il peut y avoir une petite difficulté ou un petit blocage dans le déroulé de l'accouchement. Et donc, avec la santé humaniste, dans ces séances, on va pouvoir justement lever par rapport à l'histoire de la personne, à comment elle est née, à comment elle a été accueillie, à comment la mère a vécu son propre accouchement. Tout ça va avoir un impact avec comment la lignée des femmes ont accouché. Tout ça peut avoir un impact important. Et donc, on va pouvoir travailler en amont pour pouvoir réparer des choses et mettre en place dans le conscient de la personne le positionnement idéal avec une vision la plus positive possible et avec un schéma intérieur le plus juste possible pour que l'accouchement se passe bien. C'est pour ça qu'on a des accouchements qui, en général, se passent beaucoup mieux après. Alors après, il y a possibilité aussi d'être à l'accouchement si les couples le souhaitent et être là si besoin. Vérifier comment les choses se passent, vérifier comment la maman est positionnée par rapport à ses contractions, par rapport à est-ce qu'elle accepte que le col s'ouvre, est-ce qu'elle accepte ses contractions et le travail qu'elles font, est-ce qu'elle accepte que son bébé s'engage, qu'il descende dans son bassin, etc. Tout un tas de choses que l'on peut vérifier et qui fait que si on est là et si ça bloque à un moment donné, on peut travailler à l'instant T, immédiatement pour débloquer la situation. C'est très intéressant parce que par exemple lorsqu'on est dans une dystocie du col, si vous ne savez pas ce que c'est une dystocie, en fait une dystocie du col c'est pendant l'accouchement un arrêt de l'ouverture du col de l'utérus alors que les contractions utérines sont tout à fait fortes et normales. Et donc si ça dure plusieurs heures, eh bien, à la longue ça termine en césarienne. Et donc pour éviter ça, quand on se trouve sur place, eh bien on va pouvoir, à 10 minutes, un quart d'heure, régler le problème de la dystocie parce qu'on va pouvoir, grâce à notre bilan, faire prendre conscience à la maman de pourquoi dans son inconscient, il y a quelque chose qui bloque et qui fait qu'elle ne veut pas que son col s'ouvre. Et dès l'instant où on lui a fait prendre conscience, eh bien, le problème est réglé et les contractions peuvent à nouveau avoir toute leur efficacité et la problématique n'est plus. Et puis après, il va y avoir tout le travail en postpartum, avec l'accueil du bébé, avec l'allaitement, avec tout ce qui peut se passer en postpartum, aider la maman à se récupérer sur le plan de sa vitalité, de son énergie. Regarder comment est le bébé, être là s'il y a des petits réglages à faire, s'il y a des petits problèmes de reflux, de colique ou autre, enfin, dans tout ce qu'on peut avoir comme problème dans le postpartum, on va pouvoir intervenir avec une grande efficacité. Mais on va pouvoir aussi intervenir dans des cas particuliers, comme par exemple les nausées et les vomissements de la grossesse, les menaces d'accouchement prématuré. D'ailleurs, à ce propos, il y a une sage-femme que tu connais bien, Sandrine, puisque c'est Elvire, qui a très dernièrement fait un enregistrement fort intéressant avec un monitorage, puisqu'elle suivait une maman qui avait très tôt dans sa grossesse des contractions anormalement élevées en nombre. Et donc, elle a fait un premier monitoring de ces contractions avant de faire une séance. Elle a fait un deuxième monitoring à la deuxième séance lorsqu'elle a expliqué à la maman ce qu'elle trouvait au pouls et pourquoi, donc, d'après elle, elle avait ses contractions. Mais la maman n'était pas prête à ce moment-là à rentrer dans un travail plus profond. Et puis elle a fait un troisième monitorage quelques jours après, lors de sa troisième visite de contrôle, où là, elle est allée plus loin dans le travail avec cette maman et où elle a pu vraiment défaire donc sa problématique en lien avec son histoire pour justement qu'il n'y ait plus ces contractions. Et c'est fabuleux parce qu'on a la preuve immédiate avec le monitoring de l'arrêt immédiat des contractions dès l'instant où la maman prend conscience de pourquoi elle a ses contractions et de ce qui se joue en elle. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment un outil qui va nous permettre d'avoir la preuve concrète de l'efficacité du travail que l'on fait en santé humaniste. Alors, merci Sandrine. Pour poser vos questions, cliquez sur la flèche, connectez-vous à FB ou à Stream. Voilà, c'est pour au cas où d'autres personnes aient envie de me poser des questions. Merci de le préciser. Voilà, donc il y a des choses à faire très intéressantes. On va aussi pouvoir travailler très efficacement lorsqu'il y a un dépassement de terme. Je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais en France, c'est un peu difficile la plupart du temps. Dès l'instant où la maman arrive à la date présumée du terme, s'il ne se passe rien, on va commencer à la mettre dans un stress important, avec tous les jours des contrôles de monitorage à la maternité, et au bout de 2 ou 3 jours de dépassement de terme, un déclenchement s'il ne se passe rien. Or, on sait que le déclenchement, ce n'est pas anodin, qu'il y a des conséquences importantes dans le déroulement physiologique de l'accouchement et dans aussi, après, comment le bébé vit ça et des problèmes après pour le bébé. Hein, parce que je précise que tant qu'un accouchement ne s'enclenche pas, c'est que ni la maman ni le bébé sont prêts, puisque ce qui va déclencher le démarrage de l'accouchement, c'est donc la production par l'hypophyse de la mère de l'hormone ocytocine. Et donc, pour que cette hormone, pour que cette ocytocine soit produite dans l'hypophyse de la maman, il faut que la maman soit prête à accoucher. Et le bébé n'est prêt à naître que s'il ressent que la maman est prête. Elle aussi. Le bébé est toujours en lien avec la mère pendant la grossesse et toujours en fusion avec l'état intérieur de la mère et avec son état, même si la mère n'en a pas conscience. C'est pas forcément l'état conscient. Il est en fusion avec l'état réel, avec la réalité de la maman. Donc, si la maman, elle n'est pas prête à accoucher, le bébé ne sera pas prêt à naître et donc l'accouchement ne peut pas démarrer. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un déclenchement artificiel provoqué d'un accouchement, c'est une violence faite à la fois à la mère et au bébé, puisque ni l'un ni l'autre ne sont prêts. Donc c'est un non-respect du temps qu'ils ont besoin nécessaire pour se préparer à cette initiation. Donc c'est obligé que ça se passe moins bien, puisqu'ils sont prêts ni l'un ni l'autre. Et on sait bien aujourd'hui que plus on va médicaliser un accouchement, plus l'homme va y mettre sa griffe, et plus il y a des risques de médicalisation et de difficultés, et de déviance vers la pathologie. Voilà, donc on va pouvoir travailler pour amener la maman à prendre conscience de pourquoi elle n'est pas encore prête à accoucher, ce qui fait qu'en une séance, merci Sandrine. Sandrine dit, j'adore ce que tu dis, il faut vraiment que tu viennes nous former ici. Ça serait merveilleux pour moi, je suis prête à venir, c'est avec un immense plaisir que je vais venir. Ça, c'est alors là, c'est extraordinaire. Et donc, avec une séance en général, on va pouvoir amener la maman à lui faire prendre conscience de qu'est-ce que c'est qui fait qu'en elle, elle n'est pas prête à accoucher. Des fois, c'est juste faire le deuil de la grossesse. On est tellement bien enceinte dans cette fusion avec son bébé, on a tellement envie de se le garder pour soi. Des fois, c'est juste ça, et juste le mettre en mots, et puis hop, et tout bascule. Et des fois, c'est autre chose, c'est en fonction de l'histoire de la maman. Mais dans la consultation, on va pouvoir faire prendre conscience de ça à la maman. Immédiatement, elle va basculer sur OK, je suis prête à accoucher de mon bébé. Et immédiatement, on va pouvoir vérifier que le bébé, de suite, lui, se met à dire OK, je suis prêt à naître. Et très souvent, dans les heures qui suivent, l'accouchement s'enclenche. Donc, c'est vraiment fabuleux de pouvoir éviter cette médicalisation et de rester dans le respect. Et que oui, Céline, et oui, on est bien d'accord. Et puis, on va pouvoir aussi travailler. Merci. On vous attend, on est déjà deux. Ah, mais c'est génial, c'est un bon début. Il en faut 8 minimum pour que je vienne, donc c'est en bonne voie. Et puis, on va pouvoir aussi travailler pour essayer de faire retourner les bébés en siège, parce que chez nous, en France, malheureusement, Il y a très peu de personnes qui aujourd'hui osent accoucher par voie basse les sièges. Et donc, la plupart du temps, c'est une césarienne. Et donc, si on peut éviter une césarienne, c'est génial. Donc, on va avec le même principe dans la séance, travailler avec la maman et après avec le bébé in utero pour comprendre pourquoi ce bébé s'est positionné comme ça, puisque ce n'est pas la position normale que la vie a créée pour faire naître un bébé. Oh, Céline est motivée, on va trouver les cinq autres, les six autres. Ben, génial, génial, génial. De toute façon, il y a d'autres vidéos conférences à venir. Alors, si vous diffusez l'info, moi je suis très confiante, je pense qu'on va y arriver. Et voilà, donc on va aussi pouvoir avoir une action sur ces bébés en siège. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de protocoles. On va aussi pouvoir travailler sur les retards de croissance intra-utérine. On va faire plein de choses possibles, y compris pour les sages-femmes. Les sages-femmes, c'est fabuleux le travail qu'elles peuvent faire, qu'elles soient dans les maternités ou qu'elles soient installées en libéral. Enfin, il y a vraiment un travail super à faire dans ce domaine de la maternité pour transformer les choses. Mon objectif d'ailleurs, c'est d'arriver à rentrer dans les maternités. Je sais que chez vous, il y a des maisons de naissance. Et malheureusement, en France, c'est très très fermé. On n'a pas encore de maison de naissance. Mais voilà, mon rêve, c'est de pouvoir travailler avec ces merveilleux outils dans les maternités ou dans les maisons de naissance pour pouvoir faire vraiment un travail et remettre la dimension sacrée de la naissance. Ça, c'est vraiment merveilleux de pouvoir accueillir cet être qui arrive avec la conscience de cette dimension énorme qu'il a. On est tout petit, nous, à côté de ce bébé. Il a une telle conscience, une telle ouverture d'esprit, une telle puissance, un tel ressenti que pouvoir l'accueillir avec ce plus grand respect, pour moi, c'est quelque chose de vraiment super. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, une des applications de la santé humaniste dans ce domaine de la périnatalité. Mais la santé humaniste, c'est aussi pouvoir travailler, comme tout à l'heure on l'a dit, avec toutes les pathologies diverses et variées, que ce soit des pathologies physiques, mais aussi des problématiques de vie. Ça veut dire aussi pouvoir accompagner des personnes dans des périodes difficiles de leur vie, dans des moments, dans des épreuves, accompagner à faire des deuils. Alors, on a aussi un travail super à faire dans le deuil, par exemple le deuil de fausse couche, le deuil d'IVG, interruption de grossesse, le deuil d'ITG ou d'IMG, toutes ces interruptions médicales ou thérapeutiques de grossesse qui sont atroces et qui, en tout cas chez nous en France, ne sont absolument pas accompagnées. On laisse ces femmes repartir chez elles. Et puis voilà, et c'est assez terrible. Comment pouvoir continuer à vivre avec ça, en portant tout ça, sans pouvoir le mettre en mots, sans pouvoir être compris et entendu par quelqu'un. Donc il y a tout un travail magnifique dans l'accompagnement de tout ça. Et puis accompagner le deuil tout court, hein, le deuil d'un être cher, le deuil d'une situation, le deuil d'un emploi, le deuil d'une relation. Enfin voilà, accompagner les gens qui traversent des épreuves tout simplement. Ou des difficultés, les gens qui ont des phobies, enfin voilà, tout ça, c'est un travail qui peut être fait avec la santé humaniste. Voilà, alors normalement, donc, cette formation en santé humaniste, je peux peut-être vous expliquer un petit peu comment elle se passe sur le plan pratique, quand même, ça peut être intéressant maintenant qu'on a un peu vu qu'est-ce que c'est. Il y a une première année que j'appelle le cursus de base. Ce cursus de base, on va apprendre donc à faire ce bilan de santé globale avec le pouls de Nogier. Donc, on va durant ce cursus de base apprendre ce que j'appelle à se positionner dans ce positionnement juste qui va nous permettre, avec cette rigueur nécessaire, à faire ce bilan au pouls. Ce bilan au pouls est très fiable et reproductible. Ça veut dire que si on est 10 à tester une personne, on va les 10 trouver bien entendu la même chose. Sinon, il y aurait du souci à se faire. Mais pour trouver ça, pour trouver vraiment l'état, pour vraiment aborder la personne et mettre en évidence la réalité de son état, Eh bien, ça nécessite une rigueur à avoir parce que nous sommes nous-mêmes l'instrument de mesure. Donc, c'est un peu comme quand on utilise un instrument de mesure. Si je veux me peser sur une balance, je vais d'abord vérifier que la balance est bien étalonnée. Donc, moi, en tant qu'instrument de mesure, je vais d'abord m'étalonner correctement avec moi-même. Ça veut dire que dès l'instant où je vais avoir envie de m'occuper de quelqu'un d'autre, il faut d'abord avoir la rigueur de s'occuper de soi et de se repositionner, de se réajuster, de se réaligner, de se réassembler avec soi-même. Ça veut dire certaines petites choses à vérifier, certains petits réglages à faire pour être au plus juste avec soi, dans ce qui on est profondément. À partir du moment où on est bien avec soi, où on est au plus juste de soi, alors on va pouvoir s'occuper de l'autre et on va pouvoir commencer ce bilan. Donc c'est ce positionnement qu'on va travailler tout le long de ce cursus de base, parce qu'il y a des choses subtiles dont on n'a pas forcément conscience non plus, et ça va permettre justement de révéler ces choses dont on n'a pas conscience pour pouvoir réajuster dans le subtil. Toutes ces vibrations, on va dire, pour se réaccorder à nous-mêmes, en fait. Voilà. Donc, on va travailler ça. On va apprendre toute la structure énergétique qui nous constitue pour pouvoir, au fur et à mesure, la tester au bilan, au pouls. On va apprendre à faire ces 12 protocoles de digitopuncture. On va commencer à travailler avec la micronutrition, apprendre aussi les fonctions vitales principale et la micronutrition, et puis forcément accompagner, commencer aussi à travailler avec l'accompagnement émotionnel. Alors, moi, cette formation, c'est pas de la théorie, même si bien sûr il y a de la théorie parce qu'on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas faire sans, mais pour moi, c'est une formation qui se vit dans la pratique. Je suis persuadée que il n'y a de valeur dans la vie que ce que l'on expérimente. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est sur Terre. On est là pour, sur cette Terre et dans cette incarnation matérielle, vivre des expériences. On est venu s'incarner pour vivre des expériences qui vont nous faire cheminer, qui vont nous faire comprendre des choses et peut-être réparer ou peut-être accomplir des choses qu'on n'a pas encore réalisées auparavant. Et donc, nous sommes là pour expérimenter et vivre les choses. Donc, c'est le propre de notre existence, c'est le propre de notre incarnation. Et tout apprentissage, pour moi, passe par l'expérience et l'expérimentation. Donc, la santé humaniste, c'est une formation qui passe en permanence par l'expérimentation pratique. Et donc, tout ce qui va être vu en théorie va immédiatement être mis en pratique lors de la formation. Donc, les stagiaires travaillent deux par deux, un qui fait le patient, l'autre qui fait le thérapeute, et on va voilà, travailler comme ça tout le temps, faire des travaux pratiques, des exercices en permanence pour vous permettre de ressentir réellement ce que je vous raconte, parce qu'il ne s'agit pas de vous endoctriner ou de vous faire croire des choses. Alors, effectivement, tout ce qui est dit est appuyé par les dernières études scientifiques, notamment par tout ce qui est du domaine de la physique quantique, les dernières découvertes de la physique quantique qui sont extraordinaires et qui ne font que confirmer ce qu'on fait en santé humaniste, puisque la santé humaniste, c'est de la thérapie quantique. On appelle physique quantique la physique de l'infiniment petit. Et donc, c'est vraiment une ouverture incroyable dans la compréhension de la vie. Qui fait qu'on est complètement au-delà de ce qu'on est nous dans notre corps et qu'on va considérer que l'être humain, il est bien plus que le corps physique qu'on voit de lui. On en arrive à un stade où on sait aujourd'hui, démontré par cette physique, très scientifiquement, que ce que l'on est, que le, comment dire, le vivant qui fait que nous sommes ce que l'on est, et bien au-delà de notre physique, et qu'il y a une dimension de nous dans l'invisible, à nos yeux, qui fait qu'on ne sait plus d'ailleurs trop jusqu'où va ce qui est de nous et ce qui est du pas nous, du soi et du non-soi. Donc c'est une dimension incroyable. Et on est avec la santé humaniste dans cette thérapie quantique. puisqu'on est dans l'information de la cellule, et que tout ce qui est du quantique, c'est vraiment de l'ordre de l'informationnel. Voilà, donc on va travailler dans ce cursus de base, tout ça. Et du coup, vous allez être amené forcément à faire aussi ce travail émotionnel, cet accompagnement émotionnel, puisque on va découvrir l'être humain et tous les liens qu'il y a entre ces trois niveaux de nous, et que forcément, quand on va tester et qu'on va apprendre tout ça, eh bien, ça va vous parler de vous, forcément. Donc, vous allez être amené à comprendre des choses de votre histoire, à faire des prises de conscience, et du coup, c'est aussi un chemin personnel que ça va vous amener à faire. Donc on voit forcément au cours de la formation les élèves qui se transforment, qui évoluent, qui continuent leur chemin d'évolution s'ils l'ont déjà commencé. Voilà, donc c'est fabuleux parce que ça va à la fois vous amener un savoir-faire pour travailler, pour accompagner les patients, et en même temps, ce que j'appelle moi le savoir-être, c'est-à-dire à y gagner vraiment dans votre qualité de vie personnelle et relationnelle en permanence dans votre quotidien, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle aussi. Donc c'est à transformer et à améliorer en qualité de vie pour vous aussi, puisqu'on travaille ce positionnement qui est pour moi le positionnement de la relation à l'autre. Voilà, donc ce cursus de base va nous faire aborder tout ça. Donc c'est quelque chose de très vaste et on fait en permanence des consultations avec des patients volontaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une formation, les stagiaires vont faire, avec bien sûr la formatrice qui est là, mais vont faire très très rapidement ensemble les consultations avec les patients volontaires. Le but étant de vous mettre très très vite dans la vraie pratique, dans le concret, et de vous amener très rapidement à pratiquer avec tout ça. Ça veut dire que très très vite, vous allez pouvoir commencer à faire des choses avec cette santé humaniste. Au fur et à mesure que vous faites ces modules, vous allez pouvoir mettre en application immédiatement avec les patients ou les personnes que vous connaissez. Vous allez pouvoir appliquer immédiatement et rajouter au fur et à mesure des formations ce que vous allez apprendre en plus pour compléter votre savoir-faire. Voilà, donc c'est vraiment du pratique, du concret, avec la possibilité de pratiquer ensuite et de vous installer si vous n'êtes pas déjà thérapeute et de vous installer ensuite à la fin de la formation en tant que praticien en santé humaniste. Pour pouvoir s'installer en praticien en santé humaniste, il faut faire le cursus de base, mais il faut rajouter ensuite une suite à ce cursus de base, parce que le cursus de base est un peu insuffisant, puisqu'on ne peut pas aller dans développer tout, puisque on parle de tout, mais par exemple, l'accompagnement émotionnel, il y a une autre formation après, si on veut vraiment approfondir cet accompagnement émotionnel de l'autre, il y a vraiment toute une structure, un cadre qui vous est donné pour vous permettre de savoir accompagner dans les différents cas de figure possibles une séance, donc un accompagnement émotionnel. Donc après la deuxième année, ça peut être soit la périnatalité, parce qu'après le cursus de base, les personnes qui sont intéressées par la périnate peuvent faire à ce moment-là la périnatalité avec ce qu'on a vu tout à l'heure, avec toutes les applications. Ça peut être aussi se spécialiser dans l'accompagnement émotionnel, mais ça peut être aussi se spécialiser dans comprendre les maladies physiques et apprendre à soigner le corps physique, les organes et les fonctions vitales, avec vraiment la micronutrition, aller approfondir tout ça. Puisque dans le cursus de base, on commence à voir des choses essentielles, mais on ne peut pas non plus approfondir tout ça, puisque sinon, ce ne serait plus un cursus de base, mais ça serait une formation qui durerait 3 ans. Voilà, donc après, c'est en fonction de ce qui vous intéresse, la possibilité de faire une suite au cursus de base. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous présenter pour que vous ayez une première vue de ce qu'est cette formation, de ce que je peux vous proposer. Alors, en sachant que S'il y a donc 8 personnes intéressées, je suis OK pour venir vous rencontrer au Québec. Ça sera avec un plaisir immense, puisque je n'ai encore pas mis les pieds sur cette terre et que je me ferai un immense plaisir d'y venir. D'autant que toutes les personnes qui m'en parlent avec des mots extrêmement positifs. Et voilà, ça sera un plaisir immense pour moi. Et on a vu avec Sandrine, qui est la personne référente pour vous au Québec, on a vu avec Sandrine pour organiser tout ça. Et donc, il y aurait une possibilité de commencer les formations la première semaine du mois de mai. Alors, en général, lorsque je vais faire des formations à l'étranger, les choses se passent un peu différemment qu'en France, puisque vu le déplacement, je ne peux pas fonctionner comme je fonctionne en France. En France, ce sont des modules de 2 jours à raison d'un module par mois. Donc là, il n'est pas question que je vienne 7 ou 8 fois, une fois par mois. Il est question que je vienne chaque fois une semaine. Comme je fais quand je vais en Afrique, puisque depuis 2 ans, il y a aussi des formations en santé humaniste au Gabon. Et donc, je fais pareil, je fais une semaine de formation, ce qui veut dire que dans la semaine, on fait en général l'équivalent de 2 modules. Merci pour les infos, Sandrine. Il y aura 2 autres conférences identiques à celle-là. Le samedi 9 février à 13h pour vous, heure locale du Québec, et le mardi 13 mars à 20h pour vous. Voilà, donc effectivement, si vous pensez que vous pouvez avoir dans votre entourage des personnes qui seraient intéressées, n'hésitez pas à proposer à ces personnes-là de se mettre en live sur le net, parce que je vais refaire à la même conférence. Et voilà, donc ça peut permettre de constituer le groupe. Voilà, donc je disais que s'il y a effectivement un nombre de personnes intéressées, je peux à ce moment-là, la première semaine de mai, venir et commencer la formation au Québec. Si vous avez tout un tas de questions à poser sur l'organisation pratique, passez par Sandrine, puisque c'est elle qui organise. C'est elle qui a, je crois, trouvé le lieu, qui pourra vous donner le lieu où ça va se faire, etc. Mais sachez que on fera 2 modules, c'est-à-dire 4 jours pleins de formation dans la semaine, et qu'après il y a besoin de décanter tout ça, il y a besoin de l'intégrer, il y a besoin de le pratiquer, et qu'après je reviens pas, on va pas faire ça tous les mois. Il y aura probablement un agenda qui se fera à peu près tous les 2 mois. Céline, merci, je suis intéressée pour la formation. Ben, c'est super, je suis ravie. Je serai ravie de commencer. Voilà. Et voilà, alors après, dans les modalités pratiques aussi, parce que c'est important, il faut parler du prix, du coût. Le coût français, alors moi je vais vous parler en euros et en coût français. Après, vous ferez votre conversion, parce que moi, je ne sais pas la faire. 2 jours de formation en France, c'est 245 euros. Les 2 jours de formation. Voilà, ça veut dire que moi, comme ça sera la première fois que cette formation démarrera au Québec, aura lieu au Québec, je garderai ce tarif. Puisque normalement, quand je me déplace à l'étranger, étant donné que j'ai les frais de déplacement, les frais d'avion et tout ça, ben normalement, j'augmente un petit peu les tarifs des formations pour pouvoir m'y retrouver dans mes frais. Mais là, comme c'est un démarrage, que c'est exceptionnel et que ça n'a jamais eu lieu et que c'est la toute première fois, ça sera les mêmes tarifs qui seront proposés pour vous. Alors, du monde est connecté mais n'arrive pas à utiliser le chat. Alors ça, c'est très embêtant et je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas comment faire. Il faudrait leur laisser un peu de temps et expliquer la démarche. Eh bien, moi, ça ne me pose aucun problème. Alors, comment m'expliquer ça? Je ne sais pas ce que vous avez à l'écran. Moi, quand je vois l'écran, en haut de l'écran, il y a trois fenêtres possibles à ouvrir, une qui s'appelle partager, l'autre qui s'appelle chat et l'autre qui s'appelle aide. Je pense que pour chatter, il vous faut cliquer sur chat. Je pense que c'est ça. Ou alors, il y a aussi la possibilité, en dessous de l'image, il y a une petite fenêtre bleue carrée. Et quand vous cliquez dessus, vous avez qui s'ouvre une fenêtre avec questions-réponses. C'est peut-être là aussi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas, Sandrine, si tu as une autre solution ou Céline, si vous avez une autre idée. Si on n'a plus de questions, est-ce que je peux vous écrire sur une adresse mail? Avec grand plaisir. Alors, Sandrine dit, pour se connecter, il faut cliquer sur Social Stream. Et puis, se connecter à son FB ou créer un compte Stream. Ah oui, c'est ça. Il faut créer un compte Stream. Effectivement, ouais, se connecter à son FB. Alors, mon adresse mail, si vous voulez me contacter pour reprendre une communication ultérieure, vous avez deux possibilités. Soit vous allez sur le site de l'Institut AMA, c'est www.instituthama, tout attaché, INSTITUTAMA.net. Et à partir de là, vous avez contact et vous pouvez m'envoyer un mail. Ou sinon, vous faites info au singulier INFS arrobase instituama.net. Voilà. Et après, on peut même travailler avec Skype. Si vous avez Skype, on peut aussi se prendre des rendez-vous téléphoniques. Et puis reprendre des conversations Skype en fonction de vos besoins individuels, de vos questions individuelles. Voilà, on peut voir comment on peut faire également. Il n'y a pas de problème, il y a plein de possibles. Alors, je vois que quelqu'un vient de se connecter. Bonsoir, je suis ravie. Ravie de voir qu'il y a des nouveaux, c'est super. Et de voir que d'autres personnes arrivent maintenant à se connecter, ah, ça me fait vachement plaisir. Merci Céline. Et puis j'espère à bientôt. En tout cas, si jamais vous quittez le live là, j'espère à bientôt, soit par mail ou par Skype. Et on affinera tout ça. Alors Julie, bon, bonsoir Julie. Je ne sais pas qui est Julie, mais bienvenue. Bienvenue sur ce live. Et je ne sais pas si tout le monde a pu écouter la conférence depuis le début parce que je n'ai pas eu l'impression que toutes les personnes étaient connectées au départ. Ok Céline, mais avec plaisir. J'attends que vous me contactiez avec grand plaisir. Voilà, donc je ne sais pas si toutes les personnes ont eu la conférence en entier. Je l'ai enregistrée. Je vais essayer de voir comment faire pour la mettre en ligne sur le web. Et puis, ah ben super, vous avez suivi du début à la fin, alors c'est merveilleux. Julie et sage-femme, ah oh, mais c'est génial! Super. Ok. Et donc, a priori, Julie est intéressée aussi, je suppose, par tout l'aspect périnat en tant que sage-femme. Voilà, donc si vous êtes intéressée, Julie, ben, vous pouvez aussi reprendre contact avec moi après, soit par mail, soit avec Skype, on peut se prendre un rendez-vous téléphonique, hein. Pas de souci. Et n'hésitez pas à faire passer l'info pour les prochaines. Voilà, donc j'attends un petit peu pour voir si d'autres ont envie de poser d'autres questions, si d'autres arrivent à se connecter. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre attention. Je suis vraiment heureuse et touchée de pouvoir lancer cette aventure avec ces vidéoconférences. C'est fabuleux. Et vraiment, je serai très heureuse de venir vous rencontrer chez vous dans ce beau pays. Et elle est aussi bonne qu'Elvire. Ah, oh, mais c'est génial! C'est génial. Voilà, donc je reste un petit peu en ligne pour attendre d'autres questions éventuelles. Et puis voilà, donc je vous redis qu'il y a une autre conférence comme celle-là samedi. Et ensuite, au mois de mars, j'essaye de retrouver les heures et les jours. J'ai un peu, un petit peu oublié. Voilà. Donc samedi, c'est 13h pour vous. Et mardi 13 mars, 20h. Voilà. Voilà, donc les personnes peuvent appeler Sandrine si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez besoin ou si vous avez encore des questions. Vous pouvez aussi donc appeler directement Sandrine au 819 993 0341. Voilà, merci Sandrine en tout cas parce que c'est grâce à toi que tout ça est en train de se faire. Donc un grand merci. Je ne sais pas si on peut le dire là, comment tout ça est né. Si tu me permets un peu de raconter comment on en est là aujourd'hui. J'attends que tu me donnes ton feu vert quand même. Je ne sais pas si tu m'autorises à dire comment tout ça a pu voir le jour. C'est toujours étonnant de voir comment les choses se mettent en place. C'est comme l'Afrique au Gabon. Jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour je partirais en Afrique faire des formations en santé humaniste. Et voilà, et puis c'est une personne que j'avais formée à Aix-en-Provence, qui s'appelle Sandrine aussi d'ailleurs, c'est très rigolo, et qui a suivi son mari là-bas en expatriation et qui a commencé à travailler en tant que thérapeute et qui, de fil en aiguille, a fédéré des gens très très intéressés là-bas. Et donc, ça fait 2 ans que nous formons du monde en Afrique à Port-Gentil, avec maintenant une médecin là-bas qui a créé une clinique dans laquelle nous travaillons, avec une sage-femme gabonaise qui travaille dans cette maternité, enfin, avec des tas de personnes qui font un magnifique travail là-bas. Et du coup, voilà, je trouve ça super aussi pour l'Afrique parce que le travail qui est fait en individuel par les personnes, c'est un travail aussi qui a une répercussion collective, donc c'est super. Merci Sandrine. Donc en fait, voilà comment tout ça est né. Simplement parce que Sandrine est venue passer des vacances l'été en France et qu'elle est allée voir Elvire, son ex-belle-sœur qui est sage-femme et qui travaille à la santé humaniste. Elle est aussi allée voir Françoise, qui est une praticienne en santé humaniste, et elle a eu des séances. Et voilà, elle a découvert sur elle et sur ses enfants ce qu'est la santé humaniste et puis ce que ça a donné comme résultat. Et du coup, elle a eu envie de se former. Et donc voilà, elle a eu envie d'essayer de constituer un groupe et de faire en sorte d'organiser tout ça au Québec pour que ça puisse avoir lieu. Donc voilà, il faut remercier les personnes qui sont intéressées, il faut remercier Sandrine de sa motivation et du temps qu'elle passe à organiser tout ça parce que c'est vraiment fabuleux. Voilà, donc je ne sais pas si on peut s'arrêter là ou si c'est important que je reste encore en ligne, s'il peut y avoir d'autres questions. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions qui arrivent. Je sais qu'il y a un décalage entre le moment où vous écrivez vos questions et le moment où elles m'arrivent. Donc, je voudrais pas rater des questions, mais je crois qu'on a quand même fait pas mal le tour de tout. Et puis maintenant, si vous avez d'autres questions, vous pouvez passer soit par Sandrine, soit par moi. Voilà. Pas essayer d'arriver à constituer un groupe. Mais oui, tu as raison. Tu as raison. On va y arriver à constituer le groupe. Je sais que ça va le faire et je sais qu'au mois de mai, je serai sur votre terre québécoise et que je vais découvrir ce merveilleux pays dont tout le monde me parle. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à cette santé humaniste. Alors, je redonne mon adresse courriel, hein. Je l'ai déjà donnée, mais je la redonne. Donc info INFO, arrobase, Institut AMA, tout attaché, INSTITUTAMA, point net. Voilà, et je serai ravie de vous répondre et peut-être pourquoi pas de discuter en live avec vous avec Skype aussi, puisque là c'est un peu un monologue. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier pour moi. C'est la première fois que je fais une vidéoconférence. J'ai l'habitude de faire des conférences devant du public. Et du coup, c'est un peu particulier parce que je ne vous vois pas et je ne vous entends pas. Heureusement qu'il y a le chat, c'est quand même super. Mais voilà, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, que vous avez bien compris avec mon accent. Et voilà, je vous remercie. On va s'arrêter là. Et puis, j'espère de toute façon à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.